France Inter. Bonjour à toutes et à tous. La déclaration d'impôt envoyée à 23h55, soit 5 minutes avant la date fatidique, et la majoration. La contravention oubliée, majorée, encore oubliée et saisie sur salaire. L'ordonnance toujours pas envoyée à la mutuelle. L'abonnement à la plateforme que l'on ne regarde jamais, pas résilié, trop compliqué. Vous en voulez encore ? Nous sommes nombreux et nombreuses à repousser le moment de se plonger dans les démarches administratives, mais peut-on pour autant parler de phobie administrative ? Ou s'agit-il de procrastination ? Comment réagit notre cerveau face à cette tâche qui nous paraît parfois insurmontable ? Et vous, êtes-vous du genre hyper organisé ou plutôt je laisse traîner ? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous laisser une note vocale sur l'application de France Inter ou un message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le jeudi 6 mars. Vous écoutez France Inter, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Non, mon mari a une bonne excuse, il dit qu'il a la phobie administrative. Voilà, ah oui, 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 oui. Applaudissez un peu ceux qui ont la phobie administrative. Oui, voilà. Eh ben, crevez bien en enfer en fait, hein. Ça n'existe pas. Voilà, vous n'avez pas un vrai problème, vous avez juste baissé les bras, c'est tout. Mon mari, il me regarde, il me fait « Non mais je fais pas les papiers parce que c'est ton truc. » Ce n'est pas mon truc, d'accord ? Ce n'est le truc de personne. Personne n'a jamais appelé la CAF en faisant « Non, tu raccroches toi d'abord. Non, toi d'abord. » C'est insupportable.
Extrait du spectacle de Marine Leonardi, Mauvaise graine, pour débuter cette émission sur la phobie administrative, expression médiatisée en 2014 par Thomas Thévenoud, ancien secrétaire d'État, qui avait oublié de payer son loyer et l'impôt sur le revenu. Mais est-ce que ça existe réellement, la phobie administrative ? Nous allons poser la question à nos invités. Bonjour Margot Tancrède.
Bonjour.
Vous êtes psychologue sociale et psychologue du travail, référente et directrice de la santé mentale chez Moka.care. C'est une start-up en santé mentale en entreprise. À vos côtés, Anaïs Roux. Bonjour Anaïs.
Bonjour Eva.
Psychologue spécialisée en neurosciences cognitives, vous avez créé le podcast Neurosapiens, qui se décline également en livre. Et dans quelques jours sort votre nouvel ouvrage « La vie est un long stress tranquille », co-écrit avec Jean-François Marmion et illustré par Anne-Isabelle de Lucas. Pardon. Et vous n'avez pas changé d'éditeur, c'est toujours aux arènes.
Tout à fait.
Bonjour Camille Rosier.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis Bayonne grâce à nos collègues d'ici Pays Basque. Vous êtes consultante indépendante spécialisée et vous avez coécrit en 2019 un guide dont nous avons beaucoup parlé à l'époque, un guide déterminant sur le sujet qui s'appelle « Vaincre la phobie administrative grâce aux sciences comportementales ». Et puis depuis La Rochelle également en duplex, Youn Inada. Bonjour Youn.
Bonjour.
Vous avez eu de multiples vies, vous êtes notamment cofondateur de manga.io et ce matin on avait envie de vous entendre car vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « J'y comprends rien, les démarches administratives, impôts, sécu, CAF, ce livre va vous sauver ». C'est la nouvelle édition qui paraît d'ailleurs aujourd'hui aux éditions Hachette Pratique et avec nous également ce matin Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Jérémy, ravi
Bonjour
de vous
Eva.
Retrouver.
Mais moi aussi, ravi.
Vous êtes un adepte de la phobie administrative ou pas ?
J'ai longtemps procrastiné, j'essaie vraiment de corriger ce défaut parce que il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à procrastiner.
Je suis obligée de faire un tour de table avec tous nos invités pour savoir eux où ils en sont. Margot Tancrède, vous êtes une phobique ou pas ?
Alors phobique, on y reviendra.
On va y revenir
je
tout de suite.
Je ne sais pas si le terme est approprié, mais procrastination, évidemment, je pense qu'on y touche tous.
Ah, vous pensez qu'on y touche tous ?
Oui, un petit peu.
C'est votre cas aussi, Anaïs Roux ?
Ça dépend les sujets, mais oui, quand même.
Camille Crozier, vous qui avez fait ce rapport sur vaincre la phobie administrative.
Je suis bien évidemment, moi, très phobique. Donc,
ah, c'est vrai.
En tout cas, j'ai très peur de faire mes démarches. C'est pour ça que j'ai fait ce guide.
Et vous, Youn Inada ?
C'est bien, je me sens moins seul du coup.
C'est ça. Ouais.
Premier concerné, et le bouquin est un peu l'idée d'offrir un livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais ado. Donc,
oui, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez mis, par exemple, entre autres, des semaines à ouvrir un courrier des impôts pensant qu'on allait vous réclamer de l'argent. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, en fait, c'était un chèque pour un trop perçu. C'était pour le récupérer.
Mais vous avez mis combien de temps à l'ouvrir, ce courrier ?
Je pense 3 semaines et des poussières, alors qu'en fait, en vrai, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense qu'on en parlera après. Oui. Souvent, on pense que ce sont des mauvaises nouvelles et c'est pas forcément le cas.
Donc, je disais, vous avez écrit ce guide, J'y comprends rien. C'est un guide qui est très pratique pour savoir remplir ses papiers. Est-ce que d'écrire cet ouvrage, ça vous a vacciné contre cette procrastination administrative ?
Eh ben, je dirais pas vraiment. Je pense que ça m'a aidé à structurer pas mal de choses. Mais vous savez, des fois, quand vous êtes, c'est un peu fait ce que je dis parce que parce que je fais. Bon, ça reste des fois un peu le cas. Je mets un peu du temps à faire mes démarches. Et je pense que ce sera toujours le cas dans toute ma vie, mais ça va mieux.
Mais ça va mieux. On va essayer de donner aussi des conseils à tous nos auditeurs et auditrices qui se sentent concernés. On a déjà reçu des messages que je voudrais vous lire. Margot Tancrède, vous allez voir, ça va illustrer ce qu'on va dire par la suite. Mais Samia nous dit « Depuis toujours, je suis incapable de gérer des papiers. C'est quelque chose qui me dépasse. Il m'est arrivé de me retrouver en train de pleurer parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'on attendait de moi et ce qu'il fallait que j'apporte comme document. J'ai la chance d'avoir un époux qui s'occupe de gérer donc, les papiers de la maison. » Margot Tancrède, c'est vrai que la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce terme de phobie administrative ? Est-ce que ça existe ? Ou est-ce que cette expression, en fait, elle est pas tout à fait juste ?
Alors, comme ça a été dit dans l'extrait, c'est un terme aujourd'hui qui est galvaudisé, en tout cas pour nous en tant que psychologues, comme je pense beaucoup de sujets sur la santé mentale. On surfe sur cette dynamique et donc il y a des termes qui sont utilisés, on va dire, à mauvais escient. En revanche, c'est un terme qui est parlant, donc tout de suite on comprend de quoi on parle. Donc ça, c'est sûr que ça va aider justement à comprendre ce que l'autre vit. En revanche, nous, en tant que psychologues, c'est vrai que c'est pas dans notre DSM, donc c'est un peu notre code civil diagnostics justement en santé mentale, eh bien, il ne figure pas de phobie administrative, alors que la phobie existe, hein, évidemment. Alors, donc le plus approprié, ce serait peut-être de parler de soit d'anxiété liée aux tâches administratives. Là, on a parlé beaucoup de la procrastination. Alors c'est un des mécanismes qui va être justement une conséquence directe de cette anxiété. Il peut y avoir d'autres mécanismes réactionnels suite à cette angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont avoir d'autres déclencheurs face à cette anxiété administrative.
Oui, parce que c'est vrai, quand on évoque ce sujet avec les proches, on entend souvent les mots tourment, anxiété, angoisse. Donc, c'est vrai qu'on en sourit parce qu'on se sent tous concernés, mais ça peut être un problème vraiment presque paralysant pour certaines personnes.
Et la paralysie, c'est le terme qui est juste. Pourquoi ? Parce que face à un danger qui soit perçu au réel, et ce qu'on voyait justement avant, c'est la perception qu'on va se faire de cette tâche qui va nous paralyser. Et la paralysie, c'est une des réactions face au danger. En anglais, on dit qu'il y a 3 F, fight, flight, freeze. Donc, soit je vais au combat, et donc là, je me mène face à ces tâches administratives, soit je me paralyse, ou soit j'évite, et l'évitement se passe par la procrastination notamment.
On va évidemment en parler de cet évitement parce qu'on le fait tous. Dans les couloirs de France Inter, quand on a dit avec l'équipe de Grand Bien vous fasse qu'on faisait ce sujet, les réactions ont été quasi épidermiques. La phrase la plus entendue fut « je peux venir témoigner si tu veux ». Mais on a eu aussi d'autres réactions. Je pense à Jean qui ne laisse jamais rien traîner quand il s'agit d'argent. C'est-à-dire pas question de perdre un centime. En revanche, quand il s'agit de renouveler un passeport, là c'est un peu plus compliqué. Margot Tancrède, il y a aussi un rapport à l'argent qui est en jeu dans cette procrastination.
Alors, ce qui est super intéressant, c'est que justement, on va être tous affectés, peut-être par des besoins qui vont être plus ou moins touchés. Et donc, souvent, c'est quand il y a quelque chose qui vient nous toucher, qui va être justement ce qu'on appelle la valeur anti-valeur, qui va être impactée par une situation, une demande. Et donc, ça va être d'autant plus compliqué pour certaines personnes, alors qu'elles savent peut-être qu'elles ont besoin de travailler là-dessus. Et donc, c'est là où on a besoin, et on le verra peut-être aussi dans un second temps, d'être accompagné et accepter de demander de l'aide. Pourquoi ? Parce qu'en France, je pense qu'on est les rois de l'administratif et qu'en fait, on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est simplement aussi accepter qu'il y a un manque de psychoéducation sur ces sujets-là. Dans tous les univers, que ce soit professionnel ou personnel, on a l'administratif à faire et ça fait partie de la vie.
Oui.
Donc, accepter, je dirais, c'est la première étape. On a nos propres limites et surtout, on n'est pas forcément suffisamment aiguillé pour pouvoir gérer en autonomie.
On va essayer de trouver aussi des solutions dans la suite de cette émission. On a reçu beaucoup de messages déjà. Mathilde, par exemple, elle estime que cette procrastination lui a coûté en quelques années la somme de 10 000 euros à la louche, précise-t-elle. Laure nous a également écrit, je la cite, « Je suis l'incarnation de la phobie administrative, mais ce n'est pas une angoisse. C'est plus une incapacité à faire, alors même que je sais que ça ne va prendre que 2 secondes. » Anaïs Roux, vous qui connaissez parfaitement le fonctionnement de notre cerveau, est-ce que les neurosciences peuvent expliquer cette procrastination?
Alors en partie oui, comme tout phénomène un petit peu humain, les neurosciences vont donner des billes, la personnalité, la psychologie, la sociologie apportent d'autres billes et en effet par rapport au cerveau, déjà ce qu'on observe c'est qu'il y a deux types de procrastination, je pense que c'est important de le dire, il y a une procrastination qui va être active, qui va être le fait de intentionnellement repousser les tâches à faire. Ça, généralement, ça va être les personnes qui ont besoin d'un petit peu de temps, je sais pas, pour réfléchir, pour être créatif. D'autres personnes qui aiment travailler dans l'urgence, ça aussi, je pense qu'il faut il faut le dire. Il y a des gens qui travaillent mieux sous urgence, en last minute. C'est une procrastination qui est complètement bénigne. Il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, là, on parle surtout de procrastination qui est dit passive, qui représente plutôt 20% de la population.
Ah oui, quand même, oui.
Voilà, et cette procrastination passive, elle, en fait, elle est un petit peu problématique, et surtout, il y a une base un petit peu neuronale qui est que, en fait, chez ces procrastinateurs passifs, donc on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau, bien évidemment, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, on a un système dans le cerveau qui va systématiquement, quand on prend une décision, on fait une action, on va peser les coûts et les bénéfices de cette action. Et ce qu'on se rend compte, c'est que chez les procrastinateurs, leur cerveau a tendance à décompter plus rapidement les coûts que les bénéfices. C'est-à-dire qu'une action va tout de suite leur paraître beaucoup plus coûteuse à l'instant T et beaucoup moins coûteuse quand elle est remise à demain. Sauf que ça, on sait très bien que ce schéma, il est problématique, oui, parce que c'est faux, parce que le demain devient l'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on remarque encore que c'est coûteux.
Donc on a vraiment vu des différences dans le cerveau des personnes qui ont du mal à remplir leurs papiers, pour le dire grossièrement.
Et dans la personnalité aussi, il y a des personnalités qui ont plus tendance à procrastiner que d'autres.
On va revenir après, si vous le voulez bien, sur cette histoire de cerveau paresseux dont vous parlez dans votre livre Neurosapiens. Ce sera dans quelques instants. Jérémy Pelletier, on va aussi avoir votre parole, mais alors qui n'a rien à voir avec sujet du matin. Ce sera vers 10h40. On va quitter, je vais y arriver, le monde des démarches administratives pour celui du foot, c'est ça ?
Absolument, pour celui du foot, pour celui des maillots de football qui reviennent à la mode, et notamment les maillots vintage. On va s'intéresser pourquoi chaque année des supporters remettent plus de 90€ pour des maillots qui parfois ne changent pas grand-chose entre l'année précédente et cette année. Pourquoi un tel engouement pour les maillots chaque nouvelle saison, et que représente l'objet même du maillot de football pour les individus qui les portent dans la rue ou au stade ?
France Inter.
C'était qui au téléphone ?
Ah bah c'était le fisc, c'était l'administration. Tu sais ce que c'est que l'administration ? L'administration ?
Grand bien vous fasse.
Eh ben l'administration, c'est comme une punition collective. Voilà, tiens.
Eva Rock.
Extrait de la série Fais pas ça. Ce matin, nous nous intéressons à ce stress que nous avons à l'idée de devoir remplir notamment des papiers administratifs ou exécuter une démarche en ligne. Je voudrais qu'on donne la parole à Christine qui vient de nous appeler au standard de France Inter. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors vous avez une histoire assez particulière parce que vous étiez très administrative, c'est ça ? Vous étiez très organisée ?
Oui.
Et jusqu'au moment où il y a quelque chose qui s'est passé ?
Oui, absolument, absolument. Alors, j'essaie de faire... D'abord, merci pour la qualité de vos émissions et pour l'intérêt des sujets, quels qu'ils soient.
Merci beaucoup.
Alors, oui, bon, voilà. Moi, j'étais... D'abord, j'ai travaillé dans l'administration et j'étais très administrative, les papiers rangés au jour le jour dans la pochette qui allait bien, jusqu'en 2020, année où, en fait, mes deux parents sont décédés à 8 mois d'intervalle et où ma sœur et moi-même avons dû faire face à une succession de, à un nombre important
de papiers incroyables,
de démarches administratives à distance. Nous ne pouvions pas nous rendre dans la maison puisqu'il y avait le Covid. Et alors là, il a fallu tout faire par ordinateur, sans interlocuteur, dans un moment particulièrement difficile. Et à partir de là, une fois que... Alors, on a fini une succession, elle était à peine terminée, il a fallu que nous enchaînions sur la deuxième. Donc, en plus des papiers style notaire, impôts, etc., du lourd, quoi, en fait, hein, en dossier. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et à partir de là, alors depuis 2020, j'ai sur mon bureau deux panières et tous mes papiers depuis 2020 se sont accumulés et j'ai déclenché une espèce de phobie. Bon, ils sont là, hein, je ne les jette pas, mais j'ai déclenché une espèce de phobie parce que dans ma tête, c'est devenu extrêmement mortifère tout ça.
Mais vous savez, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. C'est assez fréquent qu'une expérience, une mauvaise expérience du passé revienne et fasse ce blocage en quelque sorte. Margot Tancrède, hein, c'est pas un cas isolé celui de Christine.
Tout à fait, et pour vous rassurer, là c'est un événement de la vie qui fait partie aussi, je pense, de la réalité et qui va par conséquence rajouter ce qu'on appelle une surcharge émotionnelle.
Oui.
Et donc forcément, dès qu'il y a de l'affect, eh bien, ça vient nous prendre une énergie qu'on aura moins du coup pour se mobiliser sur des tâches plus administratives. Ça demande, il faut le dire quand même, une certaine cognition. qui fonctionne. Et donc, on le verra aussi que les personnes qui ont des difficultés sur certains plans cognitifs vont être justement limitées pour gérer une autonomie.
Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelé. Youn, vous vouliez réagir, Youn Iyada ?
Oui, tout à fait. Ben, merci Christine pour le témoignage. Et je pense que ça soulève aussi un autre point, en plus de ce qui a été déjà dit au niveau de l'émotion, c'est aussi la numérisation des démarches, qui est quelque chose qui touche beaucoup, notamment nos seniors, qui sont un peu désœuvrés par rapport à cette digitalisation forcée. Et ça fait aussi partie des explications qui font que toute une partie de la population ne se sent plus à l'aise de faire leurs démarches. Donc il y a quand même quelque chose à faire là-dessus.
Bien sûr. J'allais poser d'ailleurs la question à Camille Rosier. Camille, on pensait que la simplification administrative passée par le numérique, c'est pas aussi évident entre erreur 404 et ce mot de passe dont on ne se souvient jamais. Quand vous avez fait ce rapport Vaincre la phobie administrative en 2019, est-ce qu'il en était question de cette simplification qui passe par le numérique ?
Alors oui, en effet, le numérique, ça permet, ça a un côté très prometteur pour simplifier. Et au niveau de la DINUM, la direction du numérique, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre ce numérique vraiment beaucoup plus adapté. En revanche, on se rend compte que dans la pratique, souvent, les démarches numériques, ça éloigne les gens de l'administration, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec le numérique, et de plus en plus d'efforts sont faits pour accompagner ces personnes-là, de permettre de mettre en place des aides pour les aider à compléter leur démarche. Et donc en fait, parfois le numérique a permis de simplifier, parfois le numérique a un peu calqué la complexité en ligne.
Ouais. Est-ce que vous aviez été étonnée de l'angoisse que peut procurer chez certains et certaines ces démarches administratives quand vous aviez fait ce rapport?
Étonnée, non, parce que moi je suis particulièrement angoissée pour faire mes démarches, donc j'étais plutôt motivée pour
essayer de comprendre.
Et par contre, j'étais étonnée de voir, parce que j'ai travaillé dans l'administration, j'ai été étonnée de voir à quel point il y avait des énergies qui étaient mises au profit de cette simplification, et de voir autant d'agents motivés pour simplifier les démarches, parce que en fait on oublie aussi, mais les premières victimes de la complexité administrative, c'est aussi les agents publics.
Bien sûr.
Doivent travailler au quotidien avec ces documents, avec ces démarches, avec les usagers qui sont frustrés, irrités. Enfin voilà, donc j'étais vraiment très motivée dans cette tâche, parce que il y avait plein d'agents qui étaient également motivés, qui voulaient s'améliorer, qui voulaient faire en sorte que les démarches soient plus bienveillantes, plus adaptées aux usagers.
Et pour le coup, ça a marché, parce que parmi toutes les mesures que vous avez préconisées, il y en a beaucoup qui ont été mises en place.
Oui, on a essayé de diffuser un maximum ces principes de simplification et aussi d'intégrer vraiment les composantes du comportement pour rendre les démarches plus adaptées, plus motivantes. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. On a également travaillé à accompagner les administrations sur la simplification de documents, de formulaires, et vraiment diffuser ces principes-là un maximum. Un de nos grands combats, c'était la simplification du langage, mais aussi de tester, de construire avec l'usager, c'est-à-dire de faire en sorte que les usagers soient vraiment impliqués dans la conception des démarches, de tester, de voir si ça a l'effet escompté derrière, est-ce qu'on a réellement simplifié, est-ce que les gens sont vraiment motivés pour réaliser leurs démarches. Voilà.
D'accord. On va revenir sur quelques préconisations que vous aviez proposées. Anaïs Roux, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialisée en neurosciences cognitives. Dans votre livre Neurosapiens, vous dites que le cerveau est paresseux. Ça veut dire quoi, un cerveau paresseux ? Parce que ça va peut-être nous aider à comprendre pourquoi on a du mal à remplir ses papiers.
Alors, je dis qu'il est paresseux, mais c'est vrai que je le tourne sous forme de compliment. Pour moi, ça fait partie justement des super pouvoirs de notre cerveau d'être un peu paresseux. En fait, tout ce qu'on va faire au quotidien, penser, agir, réfléchir, tout ça, ça a un coût en fait pour le cerveau. Sauf qu'en fait, ce coût énergétique, on n'a pas des ressources infinies en énergie. Ce qui fait que l'objectif principal du cerveau va être à un moment donné d'économiser cette énergie pour gagner aussi en flexibilité. Et donc cette économie d'énergie, elle va passer par énormément de choses. Par exemple, elle va passer par le visuel, par l'attention. C'est-à-dire que si vous êtes concentré sur une tâche, sachez que votre cerveau ne va pas forcément traiter ce qu'il y a autour.
Et oui.
Quand vous rentrez dans une pièce que vous connaissez, vous ne traitez que ce que vous ne connaissez pas. Vous traitez l'inattendu. Pareil par rapport à votre déroulé de la journée ou de la vie. En fait, votre cerveau va systématiquement prédire ce qui va potentiellement pouvoir se passer. Donc encore une fois, il n'y a que l'inattendu que vous allez traiter. Ça, c'est une économie de coût.
Et en fait, ce qui se passe avec la procrastination, c'est exactement la même dynamique. C'est-à-dire que vous avez des coûts, vous avez des bénéfices. Donc si les coûts sont extrêmement élevés, bah, le réflexe principal du cerveau, ce sera en effet de prendre du recul et de dire « non, là, c'est trop coûteux pour moi ». Et alors, combiner en effet le stress que ça peut combiner et aux frises, à la paralysie dont parlait Margot, voilà, c'est pompon sur la Garonne.
Oui, alors, vous reviendrez nous parler de cette notion de stress, parce que vous en parlez dans un prochain livre qui sort dans quelques jours, hein, « La vie est un long stress tranquille », mais cette notion de stress, parce que le mot il revient souvent, le mot stress est quand même lié, on le dit facilement, à cette phobie administrative, on est d'accord ?
Oui, complètement.
Ça revient en permanence.
Oui, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper important à dire, c'est que très souvent on voit les personnes qui sont procrastinatrices, on les voit comme des personnes très paresseuses. Moi je pense que c'est très important de dire que la grande majorité des gens qui procrastinent sont anxieux ou stressés.
Bien sûr.
Ils ne se la coulent pas douce.
Ouais. Jérémy Pelletier ?
Oui, je pense que ça c'est un élément très important. Une partie aussi de ce qui peut expliquer en effet, je crois, la procrastination et le fait de repousser en effet à plus tard ces tâches administratives, c'est la crainte de mal faire. C'est la crainte de se planter, c'est la crainte
de, pas savoir
de
faire,
mal remplir un document, d'en payer ensuite les conséquences, etc. C'est ce qu'a essayé un petit peu, en tout cas, d'adapter les gouvernements, en tout cas les gouvernements successifs maintenant depuis une dizaine d'années avec le fameux droit à l'erreur. Penser et tenir compte que l'usager n'est pas là forcément pour faire quelque chose de mal, qu'il peut se planter, qu'il peut faire une erreur et que c'est pas, et que c'est pas très grave. Et effectivement, la volonté, c'était d'instiller finalement une culture de la confiance plutôt qu'une culture de la suspicion, de la défiance. Ce n'est pas parce qu'un usager appelle le fisc qu'il veut forcément payer moins d'impôts, ce n'est pas forcément parce qu'un usager appelle le fisc qu'il veut essayer de trouver un tour de passe-passe pour payer moins d'impôts. Et donc je trouve que là, il y a un enjeu, en tout cas, dans le changement de la culture, en effet, passer une culture de la défiance à une culture de la confiance. Et donc, je pense que tout ce qui a été fait autour du droit à l'erreur, à mon avis, au sein de l'administration, peut avoir un rôle assez bénéfique, parce qu'en effet, comme vous le dites, une grande partie des usagers veut bien faire et juste a peur, en effet, de se planter et de mal faire.
Yoni Nada ?
Par rapport à ça aussi, une des pistes qui peut être envisagée, c'est qu'on a une culture de l'administration française qui date de Colbert et qui a toujours été très existante. Une des choses qu'on m'a le plus rendu comme commentaire par rapport à mon livre, c'était ça devrait être enseigné au lycée.
Et oui.
Et je trouve que c'est assez
étonnant.
Ce que
disait Margot Tancrède, et oui, en début d'émission, il n'y a pas d'éducation, hein, c'est ça.
Exactement,
hein, ouais.
Ouais. Et on a des matières en plus d'éducation civique, de CGF, etc., qui pourraient servir de ça. Mais c'est un peu comme si tout le monde devait parler anglais dans sa vie active et qu'on ne l'enseignait pas à l'école. Donc il y a aussi cette peur de l'inconnu, de quelque chose qui arrive d'un coup sur la vie adulte alors qu'on n'y est pas préparé, avec des règles qui sont très complexes, qui changent tout le temps, et aussi l'état d'esprit n'est pas fait pour affronter ça. Donc voilà, c'est un peu aussi un petit message à envoyer.
Oui. Mais alors vous avez d'autant plus raison, Youn, qu'un sondage en 2021 qui avait été réalisé par l'Institut Hugo pour le compte d'une assurance en ligne, révélait qu'un tiers des Français seraient bel et bien angoissés par la gestion de ces papiers administratifs. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est les plus jeunes qui sont les plus sensibles à ce sujet, puisque 49% des 18-34 ans interrogés faisaient état de cette phobie. Ils disaient notamment que c'était très compliqué de résilier un abonnement, par exemple. Ils n'y arrivent pas. Margot Tancrède, ça veut dire que déjà, toutes les couches sociales sont concernées par cette angoisse devant le papier administratif, et toutes les classes sociales, j'allais dire, oui, et toutes les classes d'âge sont concernées.
Tout à fait. Comme on l'a vu, je pense qu'en France, personne n'est exclu par ces tâches administratives. Et c'est intéressant, cette étude, notamment sur la population jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il manque d'expérience. En effet, on n'a pas de cours à l'école et c'est ce sujet de psychoéducation qui est manquant. Il y a un point intéressant aussi à avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup de la notion de la peur. En fait, la peur, c'est une émotion primaire. Et quand on a une émotion, justement, qui s'installe en nous, c'est qu'il y a un besoin à nourrir derrière. Le besoin à nourrir, souvent, c'est d'être rassuré quand on a peur. Tant qu'on n'est pas rassuré, cette peur, elle va continuer à s'installer. Donc c'est intéressant déjà de faire cette écoute de soi-même, de savoir que la peur, c'est OK, et que nos émotions, même si elles sont désagréables, elles font partie de nous, et que le travail à faire, ça va être de savoir comment on va nourrir le besoin de cette peur et parfois s'autoriser aussi à demander de l'aide, une aide extérieure, parce qu'on n'est pas en capacité simplement de gérer en autonomie.
Et alors notamment, cette aide, elle me paraît essentielle. Vous êtes psychologue du travail, vous connaissez très bien cet univers-là. Quand on se met à son compte, par exemple, la procrastination, c'est quand même très compliqué, c'est même pas du tout recommandé. Ça peut s'avérer catastrophique. Hein. Je souris, mais ça peut s'avérer catastrophique pour des gens qui peuvent perdre leur entreprise parce qu'ils n'arrivent pas à remplir ces papiers. Donc il faut être rigoureux. Vous qui connaissez très bien ce milieu-là, est-ce que vous êtes confronté à ça ?
Alors moi, au quotidien, dans les accompagnements que je fais, ce qui est assez frappant, et je pense qu'on parlait de population, notamment population managériale, là on vient de sortir une étude il y a 3 jours, et on se rend compte que les managers sont aussi soumis à une surcharge administrative. On ne parle pas des notes de frais, par exemple, s'ajoute à une réunionite, parfois pour certains. Et donc, moi, mon conseil, déjà, ça va être de se planifier un moment dédié aux tâches administratives dans sa vie professionnelle. Parce qu'on en a aussi dans le cadre professionnel. Et évidemment aussi avoir un moment dédié dans sa vie personnelle pour pouvoir se décharger. Parce que tout ce qui n'est pas traité, eh bien, va prendre un espace mental.
Tout à fait. Et ça va créer. On se concentre aussi sur un créneau horaire où on se dit, tiens, pendant une heure, je le fais, et comme ça, c'est réglé. Et ça me laisse du temps libre pour le reste.
Exactement.
Quoi, C'est notre cerveau qui est conditionné pour ça, Anaïs. J'imagine que notre cerveau, ça lui fait du bien d'avoir cette case horaire.
Oui, c'est la technique qu'on appelle dans le jargon du time blocking. En effet, et ça marche pour beaucoup de choses. Pour la phobie administrative, on en parle aujourd'hui, mais c'est vrai que ça marche absolument pour toute tâche que vous devez faire au travail, d'avoir un espace dédié mentalement où vous savez que votre énergie, elle est là.
Oui, on se concentre bénéfique. En fait. J'aimerais vous faire écouter à vous tous un extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France Culture, c'était en 2015, et puis vous allez réagir.
Bonjour, veuillez ne pas clapoter.
Il y a plein de crétins qui remplissent leurs papiers dans des délais parfaits. Tant mieux pour eux, je les envie pas. Mais bon, et ils ont raison en plus.
Moi, je ne m'occupe pas trop de l'administration. Elle essaie de s'occuper le moins possible de moi et ça me semble bien.
Je pense à un cas d'une personne, elle a un petit bureau chez elle. Elle a installé à côté de son bureau un broyeur de papier. Sa technique est la suivante, elle prend connaissance des courriers et quelle que soit la nature du courrier, s'il n'est pas privé, il passe au broyage. C'est un principe de vie. Donc un cas de phobie administrative assumée qui est assez rare.
Complètement assumé. Anaïs Roux, vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite, c'est que... Je trouve que la phobie administrative ou tout autre élément, en fait, tant qu'on ne voit pas les conséquences négatives comme des problèmes d'argent ou des problèmes de santé, c'est très difficile de l'affronter. Cette personne avait beaucoup de chance, je pense qu'elle n'a pas encore vu les conséquences. En revanche, une fois qu'on voit les conséquences, c'est beaucoup plus facile d'agir. Et dans ce cas-là, c'est vrai que, pour compléter ce que disait Margot tout à l'heure, moi, la première chose que je pourrais conseiller, c'est de se dire, en fait, pourquoi cette personne-là, par exemple, procrastine ?
Oui.
Est-ce que c'est par manque de plaisir ? Est-ce que c'est par manque de confiance, par peur de l'erreur, de l'échec ? Est-ce que c'est par manque de temps ? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas compris les objectifs ? Voilà, donc déjà, je questionnerai le cadre de pourquoi cette personne veut passer au broyeur.
Oui.
Tout ces papiers.
Youn, Inada, vous êtes reconnue parfois dans les termes, enfin, les mots qu'on vient d'entendre de certains auditeurs ?
Je me dis que ça va parce que j'en suis pas encore à avoir un broyeur à côté de chez moi. Mais plutôt la pile d'enveloppes qui reste un peu dans le coin. Complètement, ouais. Je me reconnais bien là-dedans. Ouais.
Je voulais vous lire un message de Camille qui nous dit « J'ai le problème inverse. Je panique si je ne fais pas les choses tout de suite et si je les laisse traîner. Tant que ce n'est pas fait, j'y pense et je ne suis pas tranquille tant que ce n'est pas fait. » Comme quoi, il y a aussi déjà. Elle a de la chance, Inada, c'est sûr. Vous avez bien raison. Je voulais vous demander aussi dans les neurosciences, c'est un mot qui revient souvent, on parlait du stress tout à l'heure, Anaïs Roux. Est-ce que ces neurosciences, elles peuvent quelque part nous aider à lutter contre la procrastination ? Vous auriez des petits tips à nous donner pour qu'on évite cette procrastination ?
Les neurosciences combinées à la psychologie, en réalité. Oui. Mais pour reprendre par exemple l'exemple de Camille, moi je trouve que les neurosciences, en fait, elles peuvent être extrêmement efficaces et bénéfiques pour apprendre à nous connaître. Par exemple, là je parlais de coûts et de bénéfices, qui est vraiment franchement le concept clé hein, quand on parle de tâches administratives et de procrastination. Là par exemple, Camille, en fait, son cas, c'est que concrètement, le fait de ne pas remplir ses tâches administratives génère plus de coûts et de prise d'énergie, de prise d'espace dans sa mémoire, dans son attention, que le fait de le faire. Ce qui fait que la charge mentale générée va prendre plus de coûts que le fait de le faire. Donc elle va finir par faire la tâche. Et moi je trouve que c'est en ça que les neurosciences peuvent aider. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, de se questionner, de dire ok, où est-ce que sont mes coûts et où est-ce que sont mes bénéfices. Et une fois que j'ai identifié mes coûts, c'est comment est-ce que je peux augmenter mes bénéfices. Et là on parle littéralement du plaisir dans la tâche. Mmh. Et par exemple, c'était quelque chose, bon là je vous donne un exemple personnel, mais c'était quelque chose que je faisais avec une ancienne collègue qui elle avait la phobie administrative. Et en fait, quand il fallait déclarer nos impôts, en fait on se mettait un temps et on se bloquait sur notre temps de travail, en plus littéralement, de 14h à 15h, c'était bien, on le fait ensemble. Et on crée une atmosphère, on mettait une boisson chaude, des gâteaux, et on se donnait une récompense, en fait c'est une gratification immédiate.
C'est ce que j'allais vous demander, c'est vraiment le circuit de la récompense classique de notre cerveau.
Ça.
Donc si je me dis, je remplis ce papier et j'aurai un petit bonbon à la fin, peut-être que ça peut marcher.
C'est ça, en fait c'est vraiment concept de gratification immédiate, et c'est en ça que les neurosciences peuvent vous aider, c'est chercher cette gratification immédiate.
Bon, on aura 10 kilos, mais c'est pas grave. Manu nous dit, ça fait 2 ans et demi que je me suis mis à mon compte pour aider les gens en assistant administratif. Et moi, je me régale à faire ça, à appeler la CAF, à appeler la CPAM. Eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens qui aiment ça. Ça existe. Margot Tancrède, c'est peut-être un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens. On demande de l'aide.
Tout à fait. Ouais. S'autoriser à demander de l'aide, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et pour autant, c'est ce qui vous déchargera justement et mentalement et physiquement, parce que ça a aussi un impact forcément sur sa santé. Donc autorisez-vous à demander de l'aide. Comme le disait Anaïs aussi, entourez-vous peut-être de vos proches, de vos pairs, que ce soit des indépendants, des managers, des personnes qui traversent en tout cas les mêmes problématiques que les vôtres. Ça vous permettra justement déjà de vous rassurer que vous traversez des choses qui sont aussi partagées par d'autres personnes. Et puis, évidemment, le collectif, forcément, est aidant parce que vous partagerez vos problématiques et vous trouverez des solutions ensemble.
Eh bien, j'aimerais bien qu'on donne la parole à Camille qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Vous remplissez les formulaires pour les autres?
Alors, moi je disais, oui, j'aime bien remplir les formulaires pour les autres. Oui. Par contre, dès qu'il s'agit de les faire pour moi-même, ben là j'ai l'angoisse et une boule au ventre. Notamment dès qu'il y a des pièces complémentaires à ajouter, là c'est la catastrophe. Mais j'ai pas de souci à le faire pour les autres, donc c'est pour avoir peut-être une explication et puis peut-être un système d'entraide qui peut permettre de se soutenir mutuellement.
Et ça revient souvent. Merci beaucoup Camille de nous avoir appelé. Margot Tancrède, est-ce que vous avez une réponse à une explication en tout cas à ce comportement?
Alors
qu'on
là,
a
on est dans ce qu'on appelle le cordonnier mal chaussé, hein, ouais. Je dirais, qui arrive dans pas mal de professions. Je pense que c'est peut-être aussi une dynamique de vouloir aider l'autre avant de s'aider soi-même. Donc ça, c'est évidemment assez commun. Peut-être qu'une des solutions, ça va être aussi de pouvoir s'autoriser à prendre du temps pour soi avant de le donner aux autres.
Et oui.
Donc il y a une métaphore qu'on utilise pas mal, c'est ce masque à oxygène qui tombe dans l'avion. Bah, on le met sur soi avant de le donner aux autres. Pourquoi? Parce que si on ne s'aide pas soi-même, on ne sera pas forcément en capacité d'aider les autres.
Ah oui, donc, c'est la meilleure image. Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est vraiment de s'écouter pour pouvoir aider les autres. Et encore une fois, c'est pas un acte égoïste. Au contraire, ça va permettre d'être en capacité physique, mentale, émotionnelle, d'être aussi présent pour les autres.
On va continuer à vous donner la parole et puis on va aussi chercher des solutions ensemble pour remédier justement à cette procrastination très particulière. Mais il est 10h41 et il est l'heure de s'offrir une petite parenthèse pour mieux comprendre les Français. Et c'est grâce à Jérémy Pelletier.
Un grand bien vous fasse.
Silencieux, y a pas de fumée. C'est en français.
Eva Rock.
Va faire la queue comme tout le monde.
Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
Ça, les Français.
Jérémy, au lendemain d'une soirée de Ligue des Champions, soirée très énervante par ailleurs, vous nous parlez ce matin des maillots de foot et de leur popularité.
Et oui Eva, la triste soirée d'hier, je m'en
remets
toujours pas comme vous, m'a donné envie de vous parler de ce vêtement si particulier qu'est le maillot de football que portent les supporters pour soutenir leur équipe dans le stade ou dans la rue. Dans cette douceur printanière, peut-être avez-vous vu hier des individus arborer un maillot du PSG en faisant vos courses pour commencer à se mettre gentiment dans l'ambiance de ce qui allait suivre, en l'occurrence un match contre Liverpool. Et bien ces maillots de foot, les experts de l'Opsoco nous en parlent dans un article très intéressant publié le 21 février sur leur site que je vous invite à lire. Ils nous rappellent d'abord que les ventes de maillots n'ont cessé d'augmenter ces derniers temps sur les 20 dernières années. Pour les 100 meilleurs clubs européens, on note une augmentation de 157% des ventes de maillots. Et on monte même, tenez-vous bien, à plus de 231% pour la seule Ligue 1 française, avec mention spéciale cette fois pour le PSG qui est passé lui de 698 000 maillots vendus sur la période 2013-2018 à plus d'un million entre 2018 et 2023. Signe de la notoriété mondiale du club de la capitale et de sa nouvelle stratégie marketing à l'international. Bon, mais ce qui est fou, c'est que cette augmentation en fait se déroule alors que les prix de maillots n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. En moyenne, un maillot sans flocage de nom, il est vendu 91 euros.
C'est hyper cher. Hein,
c'est hyper cher et surtout, c'est une évolution de plus de 2% par rapport à 2023-2024 et de quasiment, tenez-vous bien, 10% par rapport à la saison 2022-2023. Mais cela n'arrête pas les fans, alors que les maillots changent parfois très peu d'une année sur l'autre, on conserve les mêmes couleurs et les mêmes sponsors. 67% des supporters de football disent dans les enquêtes acheter le nouveau maillot de leur équipe chaque saison, un chiffre qui monte même à 85% chez les 15-25 ans.
Vive les maillots, enfin la natation. Jérémy, comment on peut expliquer ces chiffres impressionnants?
Alors sur le fait d'acheter chaque année le nouveau maillot de notre club favori, les experts de l'Obsoco nous livrent une analyse que je trouve en tout cas très intéressante. Pour eux, il s'agit d'une forme de rituel. Comme si chaque saison, il fallait de nouveau faire acte de fidélité, donner la preuve de son lien d'appartenance avec son club et renouveler le lien finalement communautaire avec celui-ci. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que porter le maillot et les couleurs de son club, en fait, c'est un puissant vecteur d'identité. Un peu comme un signe religieux qu'on arbore dans la rue et à la vue de tout le monde. Par ce choix, on signifie à tout le monde quelle est notre communauté d'appartenance et dans quelle histoire on s'inscrit. C'est à mes yeux l'un des points très importants du maillot et la raison pour laquelle les supporters détestent, et ils ont bien raison, quand leur club décide de changer les couleurs traditionnelles d'une année sur l'autre. Le port du maillot nous inscrit en fait dans le temps, dans un temps plus grand que le nôtre. D'autres supporters ont porté ces couleurs avant nous, d'autres les porteront ensuite. Par ce choix de porter ce maillot, je ne fais finalement que perpétuer la tradition, je prends le relais et je le passe aux générations suivantes. D'où le côté un peu d'ailleurs collectionneur chez beaucoup d'amoureux de maillots de football, pour qui ces étoffes en fait deviennent de véritables reliques qu'ils rangent soigneusement dans une malle, qu'ils ouvrent de temps en temps à l'abri des regards et qu'ils offriront à leurs enfants plus tard. Et ça, c'est très important pour les collectionneurs. C'est la raison pour laquelle on adore également faire floquer les maillots avec le nom d'un joueur qui nous plaît. Bien sûr, ça permet d'afficher notre soutien et notre amour pour un joueur, mais ça permet surtout de ressortir ce maillot quelques années plus tard, en se remémorant la saison, les matchs marquants et les trophées gagnés. On se remémore aussi là où on l'avait acheté,
oui,
les matchs vus avec, les soirées passées en sa compagnie, comme le match d'hier, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a un côté assez rassurant à replonger dans nos vieux maillots. C'est d'ailleurs pas surprenant que les sites de maillots vintage cartonnent en ce moment sur Internet et depuis les 5 dernières années. Et si les jeunes portent aussi les vieux maillots de leurs parents ou de leurs grands frères au collège ou au lycée, car dans une société liquide comme la nôtre, le maillot vintage, c'est en fait un doudou assez réconfortant, nous permettant de nous replonger dans une époque un peu insouciante et un peu plus légère que celle qui semble s'être ouverte ces derniers jours.
Eva Rock.
Tu fous quoi?
Je me suis niqué la main.
Grand bien vous fasse.
Faudrait que t'ailles aux urgences.
Non, j'ai plus le quart d'étonne. Je refais mon dossier vite fait.
Moi, t'as rien de prévu cette année, quoi.
Sur France Inter.
Extrait d'un sketch du Palmacho. Et oui, ces tracasseries administratives, elles inspirent tout le monde. J'aimerais que nous terminions cette émission avec quelques conseils grâce à nos invités, la psychologue Margot Tancrède, la consultante indépendante Camille Rosier, la psychologue spécialisée en neurosciences Anaïs Roux et l'auteur Yoon Inada. Camille Rosier, quelles seraient pour vous les trois préconisations déterminantes pour simplifier les démarches telles que vous l'aviez envisagées dans votre rapport « Vaincre la phobie administrative »
Alors, la première, je pense que c'est difficile d'en avoir juste trois, mais la première, la plus importante, on va dire que c'est d'alléger la quantité d'informations. On vit dans un monde où on a beaucoup trop d'informations, et c'est vrai que quand les gens conçoivent des démarches, ils ont tendance à penser que plus ils mettent de l'info, mieux ça sera. Mais en réalité, quand nous, on est face à nos démarches administratives, on n'a pas un temps infini, une attention et des ressources cognitives pour traiter toute cette information, donc... l'important, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de présenter d'abord les informations importantes et essentielles pour que, enfin, pas décourager personnes dans leur démarche.
Et la deuxième,
le premier point.
Ouais.
Le deuxième point, c'est de pas décourager par le langage qu'on emploie et donc d'avoir un langage qui est vraiment plus simple, plus adapté, plus accessible et aussi un ton plus bienveillant et plus direct avec l'usager pour que l'usager se sente concerné et qu'il soit plus motivé dans ses démarches. Et enfin, le dernier point, qui pour moi est le point le plus essentiel et le plus important, c'est vraiment de concevoir ces documents, ces démarches avec les usagers, et
oui.
De prendre en compte leur retour et de tester, bien évidemment, d'évaluer si on a eu l'effet escompté.
Et c'était d'ailleurs l'objectif de votre rapport, parce que c'est bien ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis face à face des agents de l'administration avec des usagers.
Oui, oui. Bah, au-delà du rapport et des supports qu'on a pu produire pour aider les agents, on a en effet organisé des ateliers. Et c'est des choses qui se font dans les administrations aujourd'hui. Les agents vont de plus en plus à la rencontre des usagers pour concevoir des démarches plus bienveillantes et plus adaptées.
On a reçu justement un message d'Olivier qui nous dit « Je suis agent France Service depuis 2022 dans le Rhône. Nous aidons les personnes à condition qu'ils sachent qu'on existe. La communication n'est pas assez efficace et c'est dommage, regrette-t-il. Margot Tancrède, il faut encore redire peut-être qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour nous aider au quotidien. »
Oui, tout à fait. Il y a évidemment les experts qui pourront apporter leurs solutions sur la partie plutôt du fond de la tâche administrative demandée. Et puis sur la forme, si on voit que ça génère du stress, de l'anxiété, de la peur, comme on l'a vu jusque maintenant, se faire accompagner par un spécialiste. On a des psychologues qui accompagnent sur les vraies phobies, entre guillemets.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils sont aussi experts de tous ces mécanismes et qui vous aideront à débloquer ce qui se passe en vous. Et puis surtout, on le voyait beaucoup, il y a une association qui est faite, une association mentale. Et donc l'idée, c'est de déjouer cette association, qui est souvent négative, et l'associer à quelque chose de positif, et de voir qu'est-ce qu'on y gagne, comme disait Anaïs, en termes de bénéfices.
Ça veut dire qu'on peut passer par une thérapie, par exemple.
Tout à fait.
Quand il y a vraiment un blocage qui est trop fort, la thérapie, ça peut être une solution.
La thérapie est une solution. Et je vous recommande d'ailleurs la thérapie de manière générale. Dès qu'il y a un sujet, l'idée, c'est surtout d'oser demander de l'aide, comme je le disais, et surtout pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, ça va nous aider à accepter notre situation, parce que c'est un sujet qui est assez tabou, encore. On ne l'assume pas. Et donc, ça va aussi nous donner ce sas. Si on n'ose pas en parler à ses proches, au moins en parler à quelqu'un qui est expert et qui est aussi neutre.
Vous êtes d'accord, Anaïs Roux, avec
ça? Complètement d'accord. Ouais. Là, prêche pour notre paroisse, et je suis complètement alignée. Je pense que le réflexe de la psychothérapie, on ne part pas sur 15 ans de thérapie, on peut partir sur une ou deux séances qui peut déjà débloquer.
C'est des déblocages, en fait, c'est ça. Ouais.
Exactement. Ouais. Et je trouve que dans le cadre des phobies administratives, de la procrastination, c'est très bien, parce que une des sources de la procrastination, par exemple, ça peut être aussi le manque de confiance en soi. La sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les ressources. Et ça se travaille. On peut faire énormément de choses. Par exemple, on peut déjà travailler soi-même en développant sa compassion envers soi-même. C'est déjà une première étape, reconnaître qu'on n'est pas seul dans cette situation. Mais j'avoue que la thérapie, c'est bien évidemment beaucoup plus profond et l'avantage, c'est que ça ne touchera pas que le domaine de l'administration.
Bien sûr. Alors, je reviens sur une aide très pragmatique, c'est-à-dire qui sont les gens qui peuvent vous aider. On a cité France Service, qui sont des organismes publics, gratuits, qui viennent. Vous pouvez les consulter pour demander une aide, mais il y a aussi les mairies. Il y a des bureaux parfois aux mairies, vous pouvez leur demander, les assistants sociaux. Il y a des associations comme la Croix-Rouge, de Secours catholique et bien d'autres qui sont là pour notamment les publics les plus précaires et qui peuvent vous aider à remplir tout ce qui est tâches administratives, des experts comptables évidemment, des avocats. On comprend bien qu'il y a quand même une nécessité à avoir un contact avec un être humain en chair et en os, Jérémy Pelletier.
Ça, c'est un point très important, effectivement, qui est assez transversal à notre débat, c'est que la dématérialisation, qui apporte plein de choses, et je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main la dématérialisation. D'ailleurs, globalement, dans les enquêtes, on voit que les gens, malgré tout, ne veulent pas revenir en arrière, parce qu'ils se rendent compte que c'est un gain de temps, que c'est un gain pour un certain nombre de déplacements, notamment dans les zones rurales, etc. Mais la dématérialisation ne doit pas forcément s'accompagner par une déshumanisation. Or, effectivement, ce qui s'est passé depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est que dématérialisation s'est accompagnée de la déshumanisation. Or, les deux peuvent aller de pair. C'est-à-dire, on peut continuer à avoir des échanges avec un agent, des échanges oraux et vocaux entre un usager et un agent, tout en développant, en effet, la dématérialisation. Et ça, je pense que c'est un point, en effet, très important. Rééquilibrer, en fait, dématérialisation et réhumanisation, je pense que c'est un élément qui est très important, qui est beaucoup demandé, notamment dans les territoires dont on dit souvent qu'ils sont des déserts médicaux, des déserts aussi administratifs. Ça, en effet, c'est un point clé, je pense, qui est devant nous sur les prochaines années.
Mais Marie nous dit, par exemple, elle nous a écrit sur le site de France Inter, de base, je n'ai pas de phobie administrative, mais je l'ai attrapée. On n'a pas d'humain en face de nous, où ça met du temps pour contacter quelqu'un. Donc, ça met. Voilà, tout le monde n'a pas les outils. Youn Inada, j'aimerais bien qu'on termine avec vous, parce que vous avez eu l'intelligence de créer un guide pour qu'on ait tous les réflexes et toutes les aides possibles pour remplir des papiers, des conseils très pratiques pour lutter contre cette procrastination administrative. Comment vous l'avez écrit, ce guide? Parce que je me suis demandé si vous étiez même pas vous-même arraché les cheveux pour pouvoir le concevoir.
En fait, j'étais le patient zéro d'une méthode assez pragmatique, qui est de dire si vous comprenez ce que vous faites, vous le ferez avec d'autant plus de facilité. Et je m'en suis rendu compte que le premier problème, c'est que je ne comprenais pas très bien pourquoi est-ce que je devais faire les choses. Donc en fait, le livre J'y comprends rien, c'est vraiment comprendre de manière très simple et picturale et sans langage jargonesque très compliqué. Quel est l'intérêt un peu, comment ça marche et vraiment cette idée de si vous comprenez, vous ferez mieux.
Oui, d'ailleurs, pardon,
c'est un peu comme ça que ça a été fait.
Oui, de vous couper, mais est-ce que vous pouvez nous le décrire sur la forme, à quoi ça ressemble ? Parce que c'est extrêmement important pour que les auditeurs et auditrices comprennent.
Oui, bien sûr. En fait, c'est un bouquin qui n'est pas très épais déjà, avec beaucoup d'illustrations et qui se découpe en plusieurs chapitres. Donc, il va y avoir des chapitres sur, par exemple, la santé, sur les impôts, sur le logement, sur la banque, sur le permis de conduire. Et en fait, on a vraiment des questions toutes simples. Par exemple, c'est quoi la CAF, par exemple, ce genre de choses. Et vous avez des petits pictos qui expliquent, voilà, bah, quand vous êtes un monsieur ou une dame et que vous cherchez un logement, vous pouvez compter sur, etc. Et comment est-ce que ça se passe. Donc, vraiment, essayer de comprendre le plus simplement possible les démarches. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque. Et pour conclure, pour revenir à quelque chose que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être un appel à lancer au niveau du gouvernement si quelqu'un nous entend. Parce que
mais bien sûr, ils nous écoutent tous les matins.
Enseigne ça, si on pouvait enseigner ça au lycée, ça changerait beaucoup de choses. Ça simplifierait beaucoup de choses. Et puis, moi, je viens de l'écosystème start-up. Et je me demande s'il n'y a pas une start-up qui veut se lancer une interface vraiment hyper simple, hyper compréhensible pour faire les démarches. Je pense que ça aiderait beaucoup de monde aussi.
Vous devriez le faire parce que quand même votre livre c'est quand même un premier travail.
Ouais, voilà,
et on comprend, mais ce qui est intéressant dans votre livre c'est qu'on comprend que l'idée c'est de faciliter la vie quotidienne et puis surtout ne pas perdre d'argent parce que pardon de revenir à cette notion-là qui était les débuts de l'émission, mais il y a aussi cette notion pécuniaire qui est extrêmement importante dans ce qu'on a appelé la phobie administrative.
Ouais,
vous êtes d'accord
Souvent c'est un gain en plus.
Oui, c'est souvent un gain. C'est ça, exactement. On ne perd pas et c'est souvent un gain. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission qui est passée beaucoup trop vite et je pense qu'on avait encore beaucoup d'appels. Merci à tous les auditeurs de nous avoir appelés. Merci Jérémy Pelletier. On vous retrouve dans quelques jours évidemment à côté d'Ali Rebéi, Margot Tancred et Camille Rosier. Merci infiniment pour votre expertise. Anaïs Roux, vos livres Neurosapiens et La vie est un long stress tranquille sont publiés aux Arènes. Je vous propose de revenir bientôt dans cette émission pour qu'on parle de stress, d'accord ? Mais avec le sourire toujours, comme d'habitude. Youn Inada, je le rappelle, votre ouvrage s'appelle « J'y comprends rien ». Il y a une réédition qui est arrivée aujourd'hui et c'est toujours édité chez Hachette Pratique. Un immense merci aux équipes d'ici La Rochelle et d'ici Pays Basque qui ont assuré les duplex ce matin. Demain, avec toute la bande de Grand Bien Vous Fasse, on vous attend à 10h en direct pour parler cuisine et transmission. On passe derrière les fourneaux, oui, avec nos grands-mères.
Grand Bien Vous Fasse. Podcast France Inter.